y a des scènes de Kessel, mais même là, je vous en parle, en fait, je me souviens de pleurer en les lisant, quoi. Je me souviens d'avoir lu un livre qui n'est pas des plus connus, mais moi qui m'avait bouleversé, je devais avoir 11-12 ans, qui est Une balle perdue, la scène de la fin de La balle perdue, quand ce petit garçon révolutionnaire à Barcelone se rend compte que l'américaine dont il est fou amoureux, en fait, est une cynique touriste, et que sa toute dernière balle, c'est pour l'abattre, et que c'est le titre du livre. Mais je me souviens de pleurer en lisant, même en vous parlant, ça me pique les paupières, quoi. Et c'était il y a, enfin, j'ai 44 ans, c'était il y a facile 30 ans, quoi. Oui, c'est des livres qui infléchissent radicalement et irrévocablement, je pense, le sens de votre vie, c'est-à-dire la destination et la signification, les deux.
Un roulement métallique se répercutait de devanture en devanture. Les commerçants baissaient aussi vite qu'ils le pouvaient les rideaux de fer, cadenassaient les grilles sur les vitres que les plus ardents parmi les somaténès commençaient d'étoiler à coups de pierre. Une foule serrée emplissait maintenant le jardin public. Elle applaudissait aux actions des patriotes, mais comme elle eût fait à un jeu. Beaucoup de femmes hissaient des enfants sur leurs épaules pour qu'ils vissent mieux.
Si j'ai aimé et si j'aime encore aussi fort l'aventure, ce n'est pas tout à fait de ma faute.
Joseph Kessel, Sans frontières, une série documentaire de Romain de Bec-de-Lièvre et Julie Bérécy. Épisode 3, le vol noir des corbeaux. Le temps est à l'orage dans la vieille Europe. Les peuples allemands et italiens vivent désormais sous les bottes du Führer et du Duce. À Paris, Jeff est devenu reporter et romancier à succès, une sorte de mélange entre Alexandre Dumas, Tintin et un personnage évadé d'une page de Dostoïevski. La littérature prolonge pour lui le reportage, dans un même et vaste flux d'écriture où le réel et la fiction se répondent. À la fin des années folles, il a vu, éprouvé et rapporté certains signes indubitables de la montée de l'antisémitisme et du fascisme. Jeff commence à endosser, sans trop avoir prémédité la chose, le rôle de spectateur du chaos, de témoin parmi les hommes. Au mi-temps des années 30, le hasard emmène Jeff vers une poudrière située de l'autre côté des Pyrénées. Une nouvelle page de l'aventure s'ouvre dans la capitale de la Catalogne, Barcelone.
Sans doute, on ne peut pas échapper à son destin, car en 1934, fatigué par un accident d'automobile et plusieurs reportages que j'avais faits ensuite...
Joseph Kessel, alias Jeff.
Je m'étais dit, je vais prendre 2 mois de vacances de touriste. Fini la préoccupation de surveiller les événements, d'essayer de me rappeler les êtres et les choses pour en tirer un article ou immédiate ou à mon retour. Je vais oublier tout cela, je vais me promener. Donc, je pars en automobile de Paris et je me dirige par petites étapes vers Barcelone. Or, c'était au mois d'octobre 1934, le lendemain de mon arrivée, plus de taxi, plus d'électricité, les garçons de l'hôtel refusent de servir, je demande de quoi il s'agit, grève générale. Mais ça n'était pas une grève générale ordinaire, comme il s'en passait souvent à Barcelone, qui était le fief des anarchistes. C'était une grève ordonnée par le gouvernement catalan, lequel voulait obtenir son indépendance. Et le lendemain, l'insurrection a éclaté. Il ne s'agit pas là de guerre civile, ce n'est pas Franco contre la République, ce n'est pas la République contre la monarchie, c'était le mouvement d'une province qui voulait se séparer du reste de l'Espagne. Alors, que pouvais-je faire? J'ai téléphoné à mon journal, qui était alors Le Matin, que je me trouvais là par hasard, et au lieu de touriste, me voilà de nouveau devenu reporter. Et je me suis promené parmi les balles qui sifflaient dans ces ruelles étroites du côté de la cathédrale, avec une admiration profonde pour ces desperados inspirés.
Il va en Espagne en 1934, alors il va en fait à Barcelone pour passer des vacances, et boum, il y a une révolution. Alors, encore une fois, c'est le propre du bon journaliste de se trouver là où il y a un événement.
Gilles Heuret, journaliste.
Il y retournera en 1938, donc la guerre d'Espagne est commencée depuis 2 ans, et il y retournera en 1939.
C'est-à-dire que c'est simple à l'époque, je veux dire, soit on est communiste, soit on est socialiste, soit en gros on est de droite, soit on est d'extrême droite.
Michel Lefebvre, journaliste.
Et il y a les journaux qui correspondent à tout ça. Kessel, lui, il écrit dans des journaux qui sont de droite, voire d'extrême droite, sans être militant comme l'Action française. Et en plus, il se passe quelque chose qu'on connaît bien en France, c'est que les journaux appartiennent à des milliardaires, à des industriels, un petit peu comme aujourd'hui, sauf qu'il y en a 10 fois plus. Il y a 10 fois plus de journaux, il y a 10 fois plus de lecteurs, les journaux sont très riches, ils ont des très gros moyens, ils peuvent se permettre de payer des écrivains pour les envoyer 1 mois ou 2 mois pour ramener 3 articles, ça leur pose pas un problème, ils leur payent un avion, ils leur payent des voitures, ils sont très riches. Et ils appartiennent à des magnats du textile, en l'occurrence, pour Paris Soir, qui est le journal où va écrire Kessel concernant la guerre d'Espagne. Et donc ces gens-là sont très engagés politiquement, ces milliardaires, et leurs journaux aussi. Donc c'est une presse qui n'est pas une presse neutre, objective, comme on en rêve.
Quelle nouvelle du monde ?
Grève générale à Hollywood. Débâcle à Wall Street.
Spécher a gagné le Tour de France.
Vous avez lu l'article de Joseph Kessel dans le matin d'aujourd'hui ?
Non. Vous lisez jamais un journal de gauche, Baron ?
Jamais, Sacha. Oh, c'est au-dessus de mes forces. C'est trop mal écrit.
Et donc, Paris Soir, c'est un journal de droite, un journal de l'establishment, je dirais, qui a des journalistes qui sont clairement partisans de Franco. Et dans le cadre de la couverture de la guerre d'Espagne, Paris Soir a subi des critiques extrêmement virulentes de la part de l'Humanité. Parce que Paris Soir, c'est un journal populaire qui vend à plus d'un million d'exemplaires, c'est considérable. Et les partisans de la République espagnole considèrent que Paris Soir a une couverture qui est trop pro-franquiste et pas assez favorable à la République. Alors ils vont faire plusieurs choses, mais la chose principale qu'ils vont faire contre Paris Soir, c'est qu'ils vont créer un contre-Paris Soir. Ils vont créer un journal qui s'appelle « Ce soir », qui paraît donc en mars 37, financé par la République espagnole, dirigé par Aragon, dont les photographes sont Capa, Chim, Cartier-Bresson. Et ce journal est fait pour défendre la République espagnole et pour être un concurrent direct de Paris Soir. Ils ont copié toute la maquette, la dernière page en noir et blanc avec des photos. Et évidemment, Paris Soir, ils vont perdre des lecteurs, ils vont perdre des acheteurs. Et ils sont pas contents. Et donc, ils ont, dans leurs écrivains journalistes, ils en ont des très fameux, et donc ils ont récupéré Joseph Kessel, qui n'écrit plus au matin, et donc ils vont l'envoyer en Espagne.
Il dit, d'un point de vue romanesque, c'est assez triste, parce qu'il se passe pas grand-chose. C'était la fin de la guerre d'Espagne. Mais il réalise qu'un non-événement, c'est aussi un événement. C'est-à-dire que la survie des gens, le courage que déploient les femmes pour survivre, pour nourrir leurs enfants, pour avoir de l'eau, pour échapper au bombardement, pour lui, c'est un événement. Il faut absolument en parler.
Kessel, il cherche pas la guerre. Il travaille sur les à côté. D'abord, pour une raison simple, c'est que pendant la guerre d'Espagne, comme dans beaucoup de conflits, la guerre en Ukraine, par exemple, on est un très bon exemple, les journalistes et les photographes, ils vont pas n'importe où, tout seuls. Autant dans une ville, les journalistes et les photographes peuvent se promener, effectivement. Sauf que quand il s'agit d'aller sur le théâtre d'opération, le front, ils y vont pas tout seuls, évidemment. Et même, d'abord, ils déclarent qu'ils sont présents à des bureaux de presse qui leur facilitent le travail. C'est-à-dire qu'ils leur donnent des interprètes, des chauffeurs, et ils vont faire des voyages de presse. Oui, des voyages de presse. Et ça veut dire que lui, dans sa manière de faire, il cherche des témoins, il cherche le peuple en guerre, et il va décrire le peuple en guerre. La misère, la faim, et les bombardements, qui sont un des faits militaires majeurs de la guerre d'Espagne, c'est le bombardement des populations civiles, de villes qui ne sont pas fortifiées, avec évidemment le célèbre bombardement de Guernica. Mais la ville de Barcelone, comme la ville de Madrid, vont être matraquées terriblement par l'aviation nazie ou l'aviation italienne, avec des pertes humaines absolument terribles.
Le labyrinthe des sous-sols semblait interminable dans la cité universitaire. Des braseros fumaient autour desquels de jeunes soldats devisaient ou, écoutant un joueur de guitare, chantonnaient à mi-voix. On jouait aux cartes dans les dortoirs. La cuisine était installée dans l'ancienne morgue. Un amphithéâtre avec ses gradins intacts, mais le plafond creusé laissait tout à coup voir le ciel. Le tableau noir pendant encore au-dessus de la chaire professorale. Mais ce n'est pas la guerre, pensais-je malgré moi. Et voici que je sentis son odeur la plus répugnante et la plus authentique. Celle de tous les fronts, de tous les charniers, sucrés, poisseuses, souillés. L'odeur de la chair morte. Nous débouchions sur un paysage de tremblements de terre. Les murs avaient été soufflés, les poutres de fer tordues, les dalles épaisses réduites en poudre. Le sol se montrait à nu, crevé, gonflé. Image de cataclysme.
Évidemment, Joseph Kessel est un professionnel. Donc, il trouve des choses d'écrire une messe à Barcelone, alors que tout le monde a en tête les premiers mois de la guerre civile où des églises vont être détruites. Il trouve ça, il le raconte, voilà. Et puis, il décrit qu'il n'y a pas de savon à l'hôtel, il décrit que ce qu'il a mangé, il décrit comment il fait ses voyages. Donc, il fait une description absolument incroyable d'un voyage en bateau de Barcelone à Valence, avec des réfugiés en permanence sous la menace d'être bombardés. Donc c'est un voyage dangereux. Il en fait un merveilleux article, des merveilleuses photos. Ça paraît à la fois dans Paris Soir, dans Match. Et là, il décrit la condition des gens en guerre, qui sont résignés, mais en même temps toujours combatifs. Il a une phrase que j'aime beaucoup. Il dit c'est facile d'écrire, il suffit de puiser dans ses souvenirs, de raconter ce qu'on voit, quoi, et de parler avec les gens. Voilà, donc lui, il fait ça merveilleusement bien. Et évidemment, il ne trouve pas n'importe qui. Et ce qu'il en sort prend un sens. Et donc, il a écrit « Madrid tomba et il y avait une troisième dictature en Europe ».
Eh bien, après être parti d'Espagne au dernier moment et d'Alicante, par le dernier avion, au milieu de gens affolés, car ils étaient condamnés à mort, les officiers, les instituteurs, les fonctionnaires républicains, et vraiment, le prix de chaque place signifiait la vie. Au milieu de ces gens désespérés, et je suis parti avec un certain remords, car je me suis dit, je prends la place d'un homme qui va mourir, je suis arrivé à Toulouse en ayant envie de crier à la France entière, et je n'étais pas le seul, chaque journaliste qui a été avait la même impression, faites attention. Faites attention, c'est le début de la catastrophe, c'est le début du drame. Et quand nous roulions, mon frère et moi, de l'aérodrome jusqu'au centre de Toulouse, le spectacle que nous avons vu était tout naturel, mais au fond, il était terrifiant. Les allées de Toulouse étaient pleines de gens qui jouaient aux boules. Et on avait l'impression de voir des enfants jouer aux quilles au milieu d'un incendie qui commençait.
La suite, hélas, nous l'avons tous connue.
Alors, raconte, une émission de Robert Bogdaly avec aujourd'hui Germaine Sablon.
Nous avons aujourd'hui, devant ce micro, un grand nom de la chanson française, un grand nom et une merveilleuse chanteuse, c'est Germaine Sablon. Vois-tu Germaine, c'est pour moi une grande joie de t'accueillir aujourd'hui et permets-moi de te dire par conséquent la phrase traditionnelle, alors raconte.
Alors raconte. Et qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Je ne veux pas te raconter toutes les chansons que j'ai créées, parce que
parce qu'il
y en a vraiment beaucoup.
Il faudrait
beaucoup.
Une émission de 4 heures.
Et toutes ont souvent une histoire.
Et toutes ont une histoire.
Mais oui, il y en a qui ont des histoires tendres, des histoires douces, des histoires de nervosité. Il y a mille histoires, vous savez, sur nos chansons. Non, il y a une chose qui m'a frappée. À 39-40 à peu près, j'ai été chanter la ligne Maginot pour les soldats. C'était la drôle de guerre, les soldats s'ennuyaient. J'ai été chanter là-bas et on m'a fait une surprise. Mmh. On m'a passé un disque que j'avais vraiment oublié
et
qui montrait un peu, enfin qui essayait de prendre un peu l'atmosphère de l'époque. Vous voulez écouter quelques phrases?
Oui, qu'avez-vous fait de mon amant?
Voilà.
C'est ça.
Qu'avez-vous fait de mon amant? De sa gaieté, de ses 20 ans.
Octobre 1935, il se produit un coup de foudre. Un vrai coup de foudre, le début d'une love story comme Hollywood l'aurait raconté.
Dominique Missica, historienne.
Germaine Sablon chante pour la première fois dans un cabaret de Pigalle, chez Odette, que tout Paris connaît et fréquente.
Bonsoir, m'amour, bonsoir, ma fleur, bonsoir, toute mon âme.
Et ce soir-là, elle est vêtue d'une robe moulante, habituée des cabarets, Joseph Kessel. Il est un habitué des nuits agitées et animées. Il est déjà un grand reporter et un romancier populaire, admiré, courtisé. Et ce soir-là, il vient excité par l'idée d'être dans une soirée qui s'annonce, ma foi, assez fameuse, puisque... À l'époque, Germaine Sablon est la reine du music hall. Elle se produit à l'ABC, à l'Alhambra, dans tous les cabarets à la mode.
Germaine Sablon est une artiste de variété, très belle femme.
Dominique Bonnat, écrivaine.
On ne sait plus rien aujourd'hui, on l'a oubliée. Mais dans les années 30, elle est aussi célèbre qu'Arletty, Miss Tinguette, Joséphine Baker. C'est vraiment une star. Une très belle voix, une voix à la fois cuivrée, chaude, puissante.
Et le coup de foudre se produit, Kessel tombe raide dingue amoureux de Germaine Sablon. C'est la naissance d'un véritable amour entre ces deux êtres. Ils sont libres tous les deux, enfin pas tout à fait libres, mais ils se sentent libres. C'est-à-dire que elle, Germaine Sablon, est séparée de son mari et de ses deux fils. Elle vit seule dans son appartement de la rue d'Aubigny. Quant à Kessel, eh bien, on le sait, c'est un homme à femme. Donc, il a été marié une première fois. Le grand amour, Sandy, la mort de Sandy, la liaison avec Sonia. Sonia, cette maîtresse... assez sulfureuse, vénéneuse, assez fascinante, avec qui il a rompu, mais qu'il continue à entretenir et à qui il rend visite régulièrement. Et puis Katia, qui est à la fois la maîtresse du moment, mais qui semble assez régulière, puisqu'ils habitent ensemble boulevard Lannes, et que dans cet appartement qui est face au bois de Boulogne, Kessel et Katia reçoivent le tout Paris des lettres, des arts et de la politique.
Joseph Kessel est un polygame. Il vit dans la polygamie, une vie amoureuse très bien organisée. Donc il a plusieurs foyers, et il se partage entre ces plusieurs foyers. Les femmes de sa vie... semble d'ailleurs se conformer à ce modèle d'existence, chacune chez soi, et puis l'homme se partage et les visite les unes après les autres. Donc effectivement, il est entouré de femmes à la fois très belles, capables de suivre aussi le rythme de sa vie, parce que avec Kessel, il faut savoir vivre la nuit, ne pas avoir peur de l'alcool, et il y a beaucoup d'éléments qui sont à considérer. Et puis, une espèce de débordement, quelquefois, Kessel casse tout quand il a bu un peu trop de vodka. Il n'est pas violent avec les femmes, non. Mais, de temps en temps, il lui arrive de vouloir en passer une par la fenêtre.
Kessel, c'est un personnage solaire. En anglais, on dit « larger than life », plus large que la vie. C'est-à-dire que je pense qu'il rentre dans une boîte de nuit... En plus russe, tout le monde se met à jouer du Kessel. Enfin, il est magnétique, c'est évident. Il a été beaucoup, je pense, avec les femmes. Il était beau aussi.
Alfred de Montesquieu, grand reporter.
Il charrie beaucoup de morts parce qu'il a côtoyé la mort. Il était attiré par la mort justement pour son côté tranchant, je pense, en partie. C'est-à-dire son côté, sa noblesse, son côté très, très supérieur au médiocre. Son mépris de la morale aussi. Hein. C'est pour ça aussi qu'il est attiré par les voyous de Montmartre, par plein de choses. Mais Kessel, effectivement, charrie, je pense aussi, son cortège d'ombre, pour prendre la phrase de Malraux hein, sur la résistance, et son cortège de mauvaise conscience. Ces femmes qu'il a parfois abandonnées, auxquelles il n'a pas été loyal, ou aurait été loyal d'une certaine manière, mais tout en les trompant. Alors il était très loyal à sa première femme qui est morte de tuberculose, mais bon, en tout cas, les gens souffraient autour de lui. Je ne sais pas si c'est de sa faute ou pas, ou s'il ne pouvait rien. Mais les gens souffraient autour de lui. Ces femmes, bon, une est morte, l'autre il l'a plaquée vraiment n'importe comment, et puis la troisième est morte alcoolique à cause de lui ou pas, j'en sais rien. Mais les gens souffraient autour de lui, et il en avait quand même conscience, et il en tirait une, par moments, une très très grande mauvaise conscience.
Ils ont frappé, malgré leurs paroles, malgré l'opinion du monde. Le 1er septembre 1939, ils ont attaqué la Pologne. C'est là que l'Allemagne, dans sa première agression armée, a commencé la guerre, a commencé la mort, a commencé la misère. L'Angleterre et la France ont déclaré la guerre. Ce ne sont pas seulement les nations qui font la guerre, ce sont les peuples qui font la guerre.
Nous avons toujours désiré, et nous désirons toujours, qu'une collaboration sincère et une entente loyale puissent être établies entre les peuples.
Édouard Daladier, 3 septembre 1939.
Mais nous sommes résolus à ne pas nous soumettre au diktat de la violence. Nous avons pris des armes contre l'agression. Nous ne les reposerons que lorsque nous aurons des garanties certaines de sécurité, d'une sécurité qui ne soit pas mise en question tous les 6 mois. Et le gouvernement, dans son action quotidienne, dans son inébranlable volonté, se montrera digne de la foi qui anime tous les fils de notre patrie.
Ayant fait, entre autres reportages, le début du régime nazi, j'ai senti qu'il y aurait une nouvelle guerre. Et je me suis préoccupé de mon statut. Et je suis deuxième classe. Mais ayant déjà 40 ans, je ne suis pas mobilisé dès le premier jour. Je reçois ma feuille de mobilisation pour 3 semaines plus tard. Et je vois Provins, cavalerie motorisée. Je me suis dit, bon, les chars, les automitrailleuses... J'apprendrai quelque chose, je verrai du mouvement. Et je vais à Provins et je vais, dans l'après-midi même, me présenter à la caserne. Et là, je tombe sur le caporal Fourier. Votre nom, votre profession. Alors je lui dis mon nom et je dis journaliste. Il se reporte à son cahier, il me dit, eh ben mon pauvre vieux, vous n'avez pas de veine. Vous êtes porté comme journalier. La pelle et la pioche.
Pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, au début, c'est lui qui a décidé d'aller sur la ligne Maginot. Parce qu'il était donc cornaqué. En fait, les correspondants de guerre, qui n'étaient pas encore des correspondants de guerre, c'était des journalistes, donc considérés forcément comme des espions, susceptibles de révéler des informations qui ne devaient pas convenir et passer sous les fourches codines de la censure militaire. Donc, lui, il en a fait qu'à sa tête. Il a réussi à aller sur les lignes Maginot et à discuter avec les soldats. Comment ils vivaient, comment ils voyaient l'évolution de la guerre, et puis de quoi était fait leur quotidien, puisque il n'y avait pas la guerre. Hein, donc, la guerre était là, mais elle n'était pas encore là. Donc, c'est une période difficile à vivre.
Tous les petits poilus joyeux apprirent leur repas. Et bientôt tout le régiment entonna gaiement.
On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried. Pour laver le linge, voici le moment. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried. À nous le beau linge blanc.
Et des supérieurs militaires, une fois qu'il sera rentré, lui diront merci d'avoir dit tout ça, parce que nous, on a appris des choses. Entendu, il y a des informations qui ont été filtrées par les différents étages de la communication interne à l'armée qui n'arrivaient pas au sommet et donc les généraux n'étaient pas forcément au courant de la condition de vie des soldats.
L'officier que je suivais souleva rapidement une étoffe opaque et annonça, en me faisant signe de pénétrer dans la fente lumineuse qui s'était soudain dessinée, le PC du capitaine. Le rideau retomba aussitôt derrière nous et je me trouvais dans une cellule close comme étanche et se suffisant à elle-même. Et cet asile était si bien isolé dans le temps et l'espace que, pour quelques instants, il me sembla en toute vérité ne pas être venu dans un abri d'avant-poste au dernier trimestre de 1939, mais que je m'étais rendu par un magique et tragique retour en arrière à une Cagna de 1917. Oui, c'était exactement le même appareil et la même atmosphère. Le plafond de rondin et d'argile, les sacs de table, l'étroitesse du lieu, les murs grenus et suintants, les bas-flancs, la table boiteuse, la lampe fumeuse au verre étoilé, l'éclairage d'eau-forte, les quarts, les bidons, les musettes, les cartouchières, les mousquetons, les casques, les masques suspendus dans un désordre apparent, mais où chacun savait retrouver dans la nuit la plus opaque ce qui lui appartenait. Et cette odeur surtout, que je retrouvais identique après un quart de siècle environ. Odeur de terre remuée, de bois et de paille humide, de fumée, de drap et de cuir mouillé. Odeur de tanière virile, de grotte et de guerre. Il me fallut un effort assez vif pour revenir au sentiment de la réalité.
Dans un château bleu, où chaque pas crie, sous les plafonds creux, plein d'or et plein de nuit.
Quand Kessel, qui suit la non-action de l'armée française sur cette ligne Maginot, Germaine Sablon va venir chanter pour les soldats qui stationnent et qui s'ennuient en attendant la guerre. Et ils sont photographiés par Zucca, qui deviendra un des photographes de la propagande allemande. Ça, c'est moyen, mais enfin bon. À l'époque, Zucca travaille pour Paris Soir et il va prendre son appareil et photographier Kessel dans cet uniforme de correspondant de guerre avec une casquette pas très réglementaire, mais tout de même une casquette militaire. Elle, elle est habillée avec un manteau style camouflage. Il y a de la neige. Ils sont enlacés. Ils se regardent tendrement. Et cette photo est pour moi le symbole de cet amour qui est très fort, qui est un amour qui vibre. Ils vivent pour l'amour de leur pays, de la France. Ils vont défendre la France. Et cette union de la vedette et du journaliste, eh bien, c'est le résumé de leur longue love story. Enfin, longue, elle a duré 10 ans quand même.
Le maréchal Pétain, 17 juin 1940.
Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.
Dans la France de l'occupation, Kessel est totalement perdu. Il a perdu tous ses repères, il ne comprend plus rien. Il est lui-même un héros de la guerre. En tant que journaliste, le 14 juillet 1919, a assisté au défilé de la victoire. Dans ce défilé de la victoire, évidemment, en tête du cortège, monté sur un cheval blanc, glorieux, applaudi, vénéré, le maréchal Pétain. Or, le maréchal Pétain signe l'armistice, le maréchal Pétain consacre d'une certaine façon la défaite de la France, et Kessel ne comprend plus rien, ne sait plus où il est. De nombreux amis s'en vont, lui disent « on va poursuivre le combat en Afrique, on va poursuivre le combat à Londres », ou bien d'autres partent pour les États-Unis, s'exilent. Il ne faut pas oublier que Kessel, tout de même, est juif. Même s'il a été long à se définir en tant que tel, tout à coup, cette France de l'occupation le révèle à lui-même. Et il fait partie des écrivains bannis parce qu'il est juif.
Alors, Kessel aurait pu quitter la France. Il avait trouvé la filière pour quitter la France. Il avait quand même plusieurs soucis. C'est à la fois, c'est que il aimerait bien embarquer avec Katia, mais on lui dit, pour partir à destination de Londres ou de New York, on donne priorité aux soldats. Donc, Katia devrait rester à terre. Donc, c'est difficile.
Il y a sa mère aussi, auquel il pense, et il se dit « je ne peux pas la laisser non plus seule à Paris ». Georges, son petit frère, et son épouse sont déjà en partance pour le Maroc. Il hésite beaucoup. Et deuxième souci, c'est Germaine Sablon qui lui dit « bah non, je reste en France. J'ai une mère, deux fils et une patrie. Je ne quitte pas la France ». Donc Kessel va hésiter et au total rester en France. Donc là, il est chez Germaine Sablon, dans sa maison à Hagué, sur la Côte d'Azur, dans le Var. Il va louer un petit cabanon à côté pour pouvoir écrire. Germaine Sablon va continuer à faire quelques tours de chant, mais très peu, s'engager dans la résistance, sans rien dire à son amant. Et Kessel, lui, est plongé dans l'écriture des mots de rue.
Et là, vraiment, il lui faut un peu de temps, mais il n'est pas le seul dans ce cas. Beaucoup de gens en France ont eu cette lenteur à comprendre ce qui se passait. André Malraux lui-même ne s'est engagé qu'extrêmement tard dans la résistance. Finalement, c'est Germaine Sablon qui lui ouvre un horizon en lui présentant le fondateur du réseau CART. Et là, ensemble, ils vont faire quelques opérations de résistance à partir de la villa de Germaine Sablon dans le sud.
C'est Germaine Sablon, la première, qui entre en contact avec André Girard, qui est le responsable du réseau CART. André Girard, c'est un affichiste très réputé qui habite Cannes et qui a monté un des premiers réseaux de résistance avec l'aide des services secrets britanniques. Et il se trouve que Germaine Sablon, la position stratégique de sa maison est idéale. Et juste à côté de la maison, il y a une crique et la possibilité de faire embarquer des aviateurs alliés, des résistants pour gagner Gibraltar, l'Espagne, puis Londres. Donc, elle peut circuler, puisqu'en fait, elle a toutes les raisons d'aller d'un endroit à un autre pour un gala, une tournée, un cabaret. Donc, elle a une couverture absolument parfaite et le réseau CART va lui confier en effet des missions. Et quand elle s'engage dans la résistance, elle va le cacher à Kessel parce qu'elle ne lui fait pas confiance. Elle pense que comme il passe ses nuits à boire avec ses copains, il est capable de raconter les secrets. D'ailleurs, elle ne se trompe pas puisque il va faire du bruit alors qu'il y a un couvre-feu, il va faire du bruit dans la rue et il va dire au gendarme qui vient l'arrêter, mais vous savez, ma compagne, elle est de la résistance. Donc, heureusement, le gendarme est bon enfant et dit circuler, il n'a rien à voir, rentrer chez vous. Mais elle n'a pas tort, il n'est pas facile à contrôler.
Au début, donc, il y avait une myriade de réseaux qui étaient mal structurés, qui ne communiquaient pas entre eux, c'était vraiment compliqué. Donc, il avait eu plusieurs propositions d'Acier de la Vigerie, je crois, mais il avait repéré que d'Acier de la Vigerie était cocaïnomane. Donc, il s'est dit, faire de la résistance avec un type qui consomme de la cocaïne, c'est peut-être pas fiable, quoi. Donc, il avait refusé, il avait décliné. Et puis après, donc, il rentre dans ce réseau CART et il a été, il a transmis des informations, il a été, alors je crois pas qu'il ait participé à des actions armées, à des attentats ou autres, mais enfin bon, il risquait bien évidemment de se faire attraper, d'être torturé, etc.
Donc, Kessel est tout de suite mis dans l'action. Il va aussi, et ça, on le sait peu, il va aussi aider une famille juive qui s'est réfugiée à Monaco. On est en août 42, il est question de rafles dans le sud de la France, dans la zone dite non occupée, mais qui est sous la domination de Vichy, qui fait la chasse aux juifs étrangers. Et donc, ce sont des juifs russes qui sont inquiets et inquiétés. Et Kessel va utiliser ses relations dans le milieu pour obtenir des faux papiers pour cette famille.
Sauf qu'à un moment, la résistance lui dit en 1942, la résistance de Nice.
Olivier Weber, écrivain. Grand reporter.
Tu es repéré. La Gestapo arrive parce qu'il y a, on est en zone occupée. Maintenant, les Italiens de Mussolini qui géraient la police ici partent. Tu es repéré, il faut que tu partes.
J'avais déjà de faux papiers parce que j'étais dans un groupe de résistance et c'était affreux, quoi. Et puis alors, l'arrivée des Allemands à Marseille, épouvantable, quoi. C'était. Alors je suis caché, la Gestapo, enfin tout ça, et j'ai pu passer la frontière.
Thank you.
Il a franchi les Pyrénées avec Germaine Sablon et Maurice Druon, son neveu, avec un passeur dont il fallait absolument être sûr, parce qu'il y avait des passeurs qui vendaient aussi les réfugiés à la Gestapo. Hein. Donc il franchit les Pyrénées, il arrive en Espagne, il franchira le Portugal, et puis le Portugal, c'était le port des réfugiés, tous ceux qui voulaient partir. Quoi. Et c'est intéressant, parce que c'était des jeunes d'une dictature, mais... la dictature considérait que il fallait les laisser partir le plus rapidement possible avant qu'ils contaminent le reste de la société portugaise, quoi.
Cette traversée des Pyrénées, de l'Espagne puis du Portugal avant d'arriver à embarquer à bord d'un hydravion pour Kessel et Druon, puis dans un deuxième temps pour Germaine Sablon, c'est un périple extrêmement dangereux, dans le froid, la pluie glacée. Et là, il faut imaginer. Kessel, à la limite, c'est un baroudeur, c'est un aventurier. C'est pas la première fois qu'il se retrouve dans une situation difficile, à gravir des montagnes, à payer un passeur, à se débrouiller. Maurice Druon, c'est déjà plus... Il a 25 ans, mais il n'a pas connu grand-chose d'autre que les beaux quartiers. Quant à Germaine Sablon, j'ose imaginer cette star de l'époque, cette vedette habituée à être maquillée, coiffée, en train de traverser les Pyrénées. Il n'empêche que Maurice Druon, qui n'a pas toujours des mots tendres pour Germaine Sablon, reconnaît que Germaine Sablon s'est montrée la plus résistante des trois et qu'elle a fait preuve d'un courage et d'une détermination assez incroyable. Parce que il faut traverser des cols dans la neige, à dos de mulet, dans le froid, la boue, sans manger, sous la menace d'une arrestation de la garde civile. C'est une véritable héroïne de la résistance, et à ce titre, je trouve injuste que Kessel ne le raconte pas.
Mais vous êtes passé par l'Espagne avec,
avec
Maurice Druon. Il y a là une histoire que je ne sais pas si c'est Maurice ou vous qui m'avez raconté, mais votre route dans la nuit... lorsque vous étiez sur des mulets et que vous...
Ah oui, ça c'était déjà... Une fois qu'on était à l'autre bout de l'Espagne, on nous avait mal aiguillés, il n'y avait pas les passeurs qu'on voulait. Après, vraiment des aventures qui auraient pu nous coûter très cher, nous faire arrêter, nous rendre aux Allemands en France. Enfin, nous avons pu finalement trouver des contrebandiers qui, la nuit, en Galicie, à 1500 mètres d'altitude, par la neige, nous ont fait franchir les montagnes jusqu'à la frontière du Portugal. Et alors là, on ne voyait vraiment rien, rien. On criait, parce que nos chevaux de montagne, tantôt se dépassaient pour se suivre l'un l'autre. Et finalement, je ne sais plus, au lieu de crier, l'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance, a eu l'idée de citer le premier hémistiche d'un vers qu'on apprend dès l'école. Enfin, c'est pas du Corneille, du Racine. Et on a fait des kilomètres en se renvoyant les hémistiches de verre, ça d'ailleurs nous a réconforté beaucoup.
Et finalement, quand ils sont à Lisbonne, curieusement, et ils n'en donneront jamais aucune explication, ni l'un ni l'autre, ils partent, c'est-à-dire tous les deux, l'oncle et le neveu, et ils laissent au sol cette femme qui n'a pas tout à fait les papiers requis, qui ne sait pas très bien à qui s'adresser, enfin, et il la laisse, et à elle de se débrouiller toute seule. Donc là, on a une image forte, mais, je dirais, mystérieuse. Donc, Kessel, dans ses confidences à son biographe, n'a absolument rien dit là-dessus. Druon, dans ses mémoires, saute l'épisode. Il mentionne Germaine Sablon, mais pas davantage. Donc, au fait, on a là une inégalité, tout de même, entre les hommes qui s'en vont vers la guerre et puis que la femme se débrouille derrière.
Et puis quand il arrive en Angleterre, il passe les examens, hein, parce qu'il y avait un examen très très serré. Pourquoi vous êtes là? D'où vous venez? Qui êtes-vous? Qui avez-vous connu? Pour savoir si c'était pas des espions, hein, forcément. Mais ça se passe bien. Et puis il participe, il commence à écrire des articles pour la presse résistante.
Alors justement, là j'ai une photo de Kessel à Londres, c'est une photo très belle d'ailleurs, qui a été reprise par un bon Pléiade.
François Heilbronn, vice-président du mémorial de la Shoah.
Où il est en costume civil et au-dessus de lui, punaisé au mur, avec une petite punaise, un beau portrait de De Gaulle. en général, des portraits qu'on connaît, assez classiques, mais c'est une photo de 43 qui marque l'arrivée à Londres de Kessel. D'ailleurs, il s'est tout de suite, avec 45 ans, il est tout de suite présenté à De Gaulle. Il avait mis son uniforme de lieutenant de la Première Guerre mondiale avec ses décorations, sa croix de guerre. Et il dit à De Gaulle, moi je vais me battre, je vais rejoindre l'aviation, ce qui est mon arme. Et De Gaulle lui dit, à 45 ans, c'est pas sérieux. Puis en plus, vous êtes le grand Joseph Kessel. Écrivez-moi plutôt le roman de la Résistance. Et il écrit L'Armée des Ombres. Alors là, parmi ma collection, j'ai un tract qui a été parachuté sur la France fin 43, début 44. Ça s'appelle Le Chant du Maquisard. On voit la croix de Lorraine dessus. Il y a écrit Le Chant du Maquisard. Et c'est en vendre à 5 francs. Donc je pense que c'était envoyé au réseau de résistance qui ont profité pour le revendre et se faire un peu d'argent pour financer la vie des Maquisards. Et donc c'est un chant très important. Alors, aujourd'hui, on le connaît plus sous le nom Le Chant du Partisan. D'ailleurs, c'est devenu le troisième hymne français. Ce que peu de gens savent, le premier hymne, c'est la Marseillaise. Le deuxième hymne, c'est le chant du départ. Et le troisième hymne, c'est le chant des partisans.
Le chant des partisans a été écrit en un après-midi dans un petit hôtel à la campagne au sud de Londres, où les Français libres avaient l'habitude parfois d'aller se reposer les week-ends. Et là, Emmanuel Dastier de la Vigerie, qui a fondé le réseau Libération et qui est un grand combattant de l'ombre, a demandé à Kessel et à Druon, qui sont connus pour leur talent de plume, d'écrire un chant patriotique qui serait le chant pour tous les maquisards, pour tous les résistants. Et ils ont cherché une musique. Cette musique, ils l'ont trouvée au petit club français où ils se retrouvaient à Londres, grattée à la guitare, par une jeune femme russe, une musicienne qui s'appelle Anna Marley.
Anna Marley, très émue par le récit de la résistance des partisans soviétiques à Smolensk contre les nazis.
Anne de Chef de Bien, conservatrice au Musée national de la Légion d'honneur.
Va composer, après avoir lu le journal qui raconte cette prise, va composer ce qu'elle appelle la marche des partisans en russe. Alors je ne vous le dirai pas en russe, ne me le demandez pas. Mais elle compose donc une marche avec cette mélopée très lancinante qui représente les pas des... Voilà, c'est ce qu'elle dit. Et elle va chanter cette marche des partisans devant d'abord des marins, je crois, et un silence extraordinaire. Une fois qu'elle a fini, elle se dit... Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis un tonnerre d'applaudissements. Donc elle se rend compte qu'elle a composé une musique qui est très émouvante. Anna Marley va rencontrer dans le Surrey, donc dans cette banlieue de Londres, Druon et Kessel.
C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse à miser.
Anna Marley. Si le chant des partisans nous touchait au cœur, nous les prisonniers de la France occupée, il faisait naître une émotion différente peut-être, mais sûrement égale, lorsque vous le chantiez en Angleterre pour les Français exilés. Il vous arrivait à la BBC de siffler vos chansons au lieu de les chanter. Pour quelle raison ?
Je les sifflais pour la raison d'abord, lorsque vous jouez de la guitare, peut-être le réflexe normal est de siffloter, de siffler. À ce moment-là, j'ai sifflé le refrain du chant des partisans et on a découvert que c'était justement l'air qui traversait le brouillage ennemi. Alors mon sifflet est devenu presque à ce moment-là indispensable.
Donc il y a la musique d'Anna Marley, les paroles de Kessel et Druon qui sont écrites cet après-midi-là à la campagne et à l'autre bout de la chaîne, si j'ose dire, Germaine Sablon, qui va être la première interprète du chant des partisans et qui va enregistrer le chant sur les ondes de la BBC. Donc ce chant, qui est un chant guerrier, un chant très viril, d'ailleurs écrit entièrement au masculin, il n'y a pas une seule femme qui apparaît, puisqu'on dit « ohé, ouvriers et paysans », mais les femmes ne sont pas convoquées pour être des partisanes. Donc ce chant viril, ce chant guerrier, il est tout de même comme encadré par deux figures féminines, la musicienne Anna Marley et Germaine Sablon.
Donc c'est nous qui avons hérité de cette page d'histoire, de ce petit feuillet qu'ils ont glissé dans l'histoire, comme ils le disent très joliment avec Kessel. Feuillet composé donc le 30 mai 1943. Donc ils vont s'échanger ce jour-là. Drouhon le raconte lui parfaitement bien comment ça se passe. Ils vont s'échanger des strophes, ils vont les mettre en vers. Et quand c'est fini, alors il y a une chose très amusante, Germaine Sablon qui a pris des notes au début, alors malheureusement sur un carnet dont on ne sait pas où est-ce qu'il est devenu, mais dans un petit film, on voit des pages ouvertes de ce carnet et on voit effectivement qu'au début, il y avait les hiboux. Et ça, Drouhon raconte dans ses souvenirs qu'ils ont trouvé que le hibou était un animal trop noble pour personnifier les nazis et donc ils vont mettre les corbeaux.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers des paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
Ça sera finalement très vite fait, hein. C'est fait quasiment d'un jet. Et une fois que c'est fini, Drouhon va mettre en ordre les strophes. Vous voyez que vous avez relativement peu de ratures. Vous avez le sous-titre Underground Sound, qui est le chant a été connu beaucoup sous ce nom-là. L'idée, c'était que ce chant soit un chant qui émerge en fait de la résistance, spontané. Donc il n'y a pas d'auteur, c'est resté anonyme pendant très longtemps. Il devient vraiment cette œuvre maîtresse de Drouhon et de Kessel beaucoup plus tard. En fait, ils l'ont créé pour que ce soit en fait quelque chose de très spontané qui se sortait des maquis. Donc voilà, et bon, c'est extrêmement émouvant, hein, ces trois feuillets avec des annotations fort, faible, en fait, pour jouer.
Ce qui est drôle aussi, c'est que Drouhon était clairement de droite, mais très de droite, et Kessel, honnêtement, était plutôt à droite en fait. Hein, mais le fait est qu'il a légué à la résistance, à la France et au communisme un hymne enfin, irremplaçable, quoi. Ouvrier et paysan, enfin, c'est surtout un hymne presque FTP, quoi, communiste. Donc c'est une musique plus ou moins cosaque, plus ou moins russe blanche, qui recycle au service de la résistance. Et d'ailleurs, le chant des partisans est classé, est monument national. Le manuscrit physique du chant des partisans est monument national au même titre que Chambord ou la Tour Eiffel. Donc voilà, c'est un monument national. Voilà, donc cet apatride, ce juif errant, dont le français n'est pas forcément la langue maternelle ou la langue entendue par ses parents, a écrit un monument national de la langue française, de la mythologie française et honnêtement de l'histoire de France, quoi. Je pense que c'est ça Kessel résistant. Plus que L'Armée des Ombres, c'est un bon livre, mais bon, est-ce que c'est le plus beau livre de Kessel? Je pense pas.
Alors là, on va sortir un manuscrit qui est quand même assez exceptionnel, mais alors, dans tous les sens du terme, c'est parce que c'est le manuscrit de l'Armée des Ombres, le manuscrit original.
Serge Linkès, maître de conférence à l'Université de La Rochelle.
Certainement le premier. Alors je le sors délicatement parce que malheureusement, ce manuscrit très précieux est dans un état déplorable. Il fait partie des manuscrits qui, conservés dans les coffres d'une banque, ont été complètement inondés. Alors je ne sais pas qui a eu l'idée de mettre le manuscrit de l'Armée des Ombres, qui est quand même un manuscrit, une sorte de patrimoine national, hein, qui vaut bien celui des chants des partisans, et qui se retrouve dans un état, je vous laisse constater, voilà. On est proche des manuscrits de la Mer Morte, hein, on n'en est pas loin. Hein. Ce sont des petits fragments sur lesquels on voit la petite écriture de Kessel qui se dessine. Alors c'est un manuscrit très particulier parce que, moi, j'ai l'habitude de dire que c'est entre le documentaire et le roman. C'est-à-dire qu'il y a une partie romancée, fictionnalisée, volontaire de la part de Kessel. Il faut noyer le poisson. Il faut que ce roman qui va circuler dès 1943, on est en pleine guerre. Tout cela est le récit élaboré à partir de ce qu'il a vu lui-même en tant que résistant, ce qu'il a vécu lui-même, évidemment, ce qu'a vécu Germaine Sablon, Maurice Drouhon et puis ses proches, mais aussi de tous les récits qu'on lui a faits. Et il faut brouiller les pistes. Ça, c'est une obsession. Kessel a cette obsession-là tout au long. On le voit dans le manuscrit, on le voit même dans le livre qui est publié, parce que sa préface fait état justement de cette inquiétude qui est que ce manuscrit finalement serve aux nazis pour identifier les résistants. Donc il y a cette partie qui est évidemment romancée, mais il y a toute une partie qui provient de matériaux bruts qu'on lui a confiés. Je vais vous les montrer tout de suite. Il y en a par exemple ici qui sont malheureusement dans le même état. Vous voyez ces documents officiels qu'on vient lui amener pour qu'il s'en serve pour l'écriture de son roman. Je vais faire ça délicatement, évidemment, parce que vous voyez que c'est en très mauvais état. Donc, ce sont des documents dactylographiés, qui sont des rapports de la résistance qu'on lui transmet. Par exemple, il y a celui-là où il y a des récits, il y en a où il y a des poèmes ou des chansons, qui sont souvent d'ailleurs des choses qui circulaient dans la résistance et qui provenaient de camps d'internement. Voilà. Nous sommes tous des communistes, pour l'avoir crié bien haut, nous sommes sur la sombre liste, ceux qu'on mène au poteau, vous qui êtes en liberté, vous nos frères de combat, nous sommes toujours à vos côtés, un énorme trou, un de nous ne faiblira, pour nous l'heure du trépas s'avance, la mort déjà nous tend les bras, mais nous aurons notre vengeance, cette tâche vous appartiendra. Hein, donc ça vient directement des camps, ce sont ces petits journaux qui circulent et qui arrivent quand même à sortir des camps d'internement. On imagine que l'issue a été fatale et Kessel va s'en servir pour rédiger son roman. Alors vous voyez ici l'état du général du manuscrit, on a des anecdotes. Évasion de Bayard. Et donc là, c'est écrit au crayon, c'est des notes que Kessel a prises lorsqu'il a rencontré différents résistants. La fiction n'est pas là pour venir apporter quelque chose, elle est là surtout pour venir masquer. C'est-à-dire qu'il faut que l'événement ne soit pas reconnaissable, il faut qu'il ait toute l'apparence du réel, tout en étant noyé dans une fiction qui rend impossible l'identification du lieu, de la personne. Et c'est vraiment une attention qu'il a continuellement.
Je ne sais pas si Kessel dessine une frontière morale pour l'écriture, mais en tout cas, il donne de la résistance dans ce roman une image complexe.
Frédéric Leichter-Flack, enseignante-chercheuse à Sciences Po.
Une image qui intègre en fait les doutes, les fragilités, les vulnérabilités, qui intègre le questionnement éthique sur les moyens au service d'une juste cause, sur la limite des moyens, qui intègre la réflexion sur la violence, parce qu'évidemment, les résistants, ce n'étaient pas des tendres, évidemment. Hein, il ne s'agit pas d'en donner une vision irénique ou idyllique, pas du tout. Ils doivent commettre des meurtres, ils doivent se protéger des traîtres, ils doivent liquider les traîtres dans leur rang. Donc tout ça est montré, tout ça est partagé. Mais avec ce dispositif très complexe et très beau et très subtil qui est mis en place à la fin du roman, il y a une manière, en fait, de partager un questionnement éthique, des doutes sur la légitimité. Ce qui renforce d'autant plus, je crois, la légitimation morale de la résistance. Et donc, c'est en ce sens, si vous voulez, qu'on peut néanmoins considérer que on n'est pas loin d'une œuvre de propagande ou de propagande morale, si vous voulez. Sauf qu'ici, le terme de propagande, il n'est pas synonyme de vision manichéenne et simplifiée. Au contraire, si propagande il y a en faveur de la légitimité de la résistance, c'est une propagande qui parie sur le complexe, sur le non-manichéen, sur le partage des difficultés, sur le partage des questions. Ce qui se joue aussi, c'est d'une certaine manière l'image morale de la résistance. Les résistants, dans le livre de Kessel, ce ne sont pas des machines. Ce ne sont pas des machines à combattre, ce ne sont pas des machines à tuer, ce ne sont pas des robots, ce ne sont pas des monstres froids convaincus de la justesse de leur combat. Non, ce sont des êtres humains, avec leurs failles, avec leurs fragilités. Et c'est cela précisément qui leur donne toute leur légitimité et toute leur valeur.
Quand Jean-Pierre Melville, le cinéaste, adaptera L'Armée des Ombres, avec une pléiade d'acteurs et d'actrices extraordinaires, Simone Signoret, Lino Ventura. Melville, qui avait fait de la résistance, dira « C'est le plus beau livre sur la résistance qui a jamais été écrit. »
Le dispositif que Kessel met en place à propos de Mathilde à la fin de son roman, c'est d'une certaine manière un refus de la torture. On n'entre pas dans le fort intérieur des gens. On peut aller jusqu'ici, mais pas plus loin. Et rester en deçà, c'est aussi une manière de dire qu'il y a des frontières morales à ne pas franchir, il y a des frontières morales à ne pas dépasser. Même si ces frontières morales nous rendent plus vulnérables et moins efficaces que l'ennemi.
« arriva un jour du mois d'août dans ce Paris fiévreux, à peine sorti des barricades, qui s'arrêtait de compter ses morts pour lui crier sa ferveur. Il rapportait cette victoire qu'on avait cru perdue et dont le premier, au 18 juin 40, il n'avait pas désespéré. Et puis, à ce peuple meurtri que l'ennemi pendant 4 ans avait humilié pour mieux la servir, il rapportait cette chose immense et merveilleuse, la liberté.
Kessel et Germaine Sablon vont se retrouver quand même au printemps 45, mois de mars, avril 45. Et là, c'est la douche froide pour Germaine Sablon, parce qu'elle s'attendait à des retrouvailles à la Kessel, probablement, qui tombent dans les bras l'un de l'autre, que ce soit à nouveau le fol amour, la passion. Et elle tombe sur un bloc de glace. Alors, il y a toutes les interprétations sont possibles. On ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui s'est dit entre les deux amoureux, enfin les deux ex-amants. Probablement, Kessel, c'est vrai, est tombé amoureux de Michèle Aubrienne. Ça, c'est évident, cette jeune franco-irlandaise, brune, belle, intrépide. Enfin, bon, voilà, il est tombé amoureux. Toujours est-il que cette rupture est brutale et qu'il n'y a plus de contact entre les deux amants. Ces deux monstres se sont, au fond, affrontés, aimés, et puis tellement aimés qu'ils ne peuvent plus être ensemble d'une manière même pacifique.
Dans le prochain épisode, vous allez sans doute imaginer qu'après avoir traversé deux guerres mondiales et écrit le troisième hymne de son pays d'adoption, Jeff va enfin pouvoir se reposer sur ses œuvres et ses médailles. Erreur grossière. Après 1945, la fièvre de l'écriture et le chaos du monde continuent de tourmenter Jeff. Il ira voir de très près les conséquences judiciaires de la guerre, il retournera au Moyen-Orient, assister à la naissance d'un nouvel État-nation, et il arpentera les réserves du Kenya, où rôde ce gros félin sauvage qu'on appelle le lion. C'était Joseph Kessel sans frontières, épisode 3, Le vol noir des corbeaux, avec Alfred de Montesquieu, Gilles Ray, Michel Lefebvre, Dominique Missica, Dominique Bonnat, Olivier Weber, François Elbron, Anne de Chef de Bien, Serge Linkes, Frédéric Leichterflack. Les textes de Joseph Kessel sont lus par Félicien Jutner. Documentation, Anne-Lise Signoret, Antoine Villoz et Denis Forget. Prise de son, Laurent Macchietti, Nicolas Mathias et Yvan Turc. Mixage, Éric Boisset. Coordination, Christine Bernard. Avec la collaboration de Sacha Monoury. Une série documentaire de Romain Debec de Lièvre, réalisée par Julie Bérécy.
I wanna have your baby. What a man, what a man.